Morning Edition from NPR News.
Wenn Sie hinsen in der Haus.
France Inter, le 18-20.
Voici un jour dans le monde, jusqu'à 19h. Dans quelques instants, l'avenir du trumpisme, que Donald Trump soit réélu ou battu. Au sommaire encore, le bruit du monde aux États-Unis, Milwaukee dans le Wisconsin, état gagné par Joe Biden, mais Donald Trump veut que l'on recompte les bulletins. Reportage Rosalie Lafarge. Les bruits du monde sous les radars, Amélie Perrier. Portrait de candidats insolites lors de ces élections américaines, que ce soit la présidentielle ou les élections locales. Et puis Jean-Marc Four, vers 18h55, le monde à l'envers, le trumpisme a des adeptes dans le monde.
Pierre Veil, un jour dans le monde.
Thomas Negarov, spécialiste des États-Unis, est en ligne avec nous à Washington. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Pierre.
Alors Thomas, restons prudents. Si Trump est battu, on peut se dire, nous ici en Europe, c'est fini. C'est cette parenthèse totalement chaotique, délirante depuis 2016 à la Maison-Blanche. Mais en fait, le mouvement Trump, et c'est ce qui ressort de ce scrutin présidentiel, ce mouvement Trump est plus large et plus solide que prévu.
Oui, les instituts de sondage ne cessaient de donner entre 40, 45, 46% maximum d'approbation de son travail. En fait, on a 48% des suffrages qui sont portés sur sa personne. Et puis, surtout, il a gagné des voix par rapport à 2016. Donc le trumpisme, puisque c'est le terme que vous employez, s'est consolidé dans le pays. On a aujourd'hui 68 millions de voix qui sont portées sur Donald Trump. Et en effet, si on doit parler de coalition Trump, pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas? On parlerait bien de coalition Obama. Elle s'est élargie, notamment aux Latinos. Alors on explique aussi beaucoup parce que Biden n'aurait pas suffisamment fait campagne pour eux. Mais en tout cas, chez les Latinos, notamment les hommes, ça a fonctionné avec comme point d'orgue la victoire en Floride. Donc oui, l'assise électorale de Donald Trump, c'est un peu paradoxal parce qu'il est en train de perdre l'élection présidentielle, mais quand on regarde dans le détail, elle est solide, elle s'est solidifiée.
Thomas Negarov, quelle est votre définition du trumpisme? Est-ce que c'est renverser la table?
Alors, le trumpisme, c'est à la fois, à mon avis, une idéologie et une manière de gouverner. L'idéologie, c'est clairement du national-populisme, du populisme, parce qu'on s'adresse directement au peuple, en brocardant les élites, l'establishment, l'état profond, pour reprendre les mots de Donald Trump. C'est du nationalisme aussi, parce que c'est des murs pour se protéger, c'est l'étranger qui est l'adversaire, l'étranger au sens soit de l'individu, soit du monde extérieur. C'est un monde qui se pense un peu isolé sur lui-même, refermé, America first, c'est l'Amérique d'abord, c'est un slogan des années 30, America first, isolationniste. Donc il y a une forme de national-populisme. Et puis sur la forme, on l'a vu avec Donald Trump, c'est la provocation, c'est l'outrance. C'est aussi, et ça rejoint un peu l'idéologie populiste, c'est l'idée de communiquer directement avec les Américains sans passer par les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires étant ici les médias. Donald Trump est son propre média. Twitter n'est qu'un instrument pour lui. Et c'est cela, je pense, le trumpisme. Donc à la fois une manière de gouverner et une idéologie. On oublierait peut-être un peu trop l'idéologie pour uniquement se concentrer sur le côté délirant, chaotique, mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus profond derrière, je crois.
Et c'est peut-être le fait, Thomas Negarov, que Trump réussit à rassembler, en fait, sur des thèmes très différents, à chaque fois, les colères américaines.
Oui, alors voilà, la dimension populiste, elle est là, c'est une manière, pardon, de gouverner largement sur la peur, en utilisant des ficelles assez connues, de la victimisation, donc de la peur, de la colère. On est effectivement là sur une coalition des colères qui peuvent être de nature très différente, et des colères qui sont parfois même un peu construites, quand on vous dit que, je sais pas, il y a les complotismes de QAnon, par exemple, qui vous disent que les démocrates, et notamment l'élite démocrate, tient des réseaux satanistes et pédophiles, pédosatanistes, ça crée une colère, parce que nos enfants ne sont pas protégés. Alors, ça peut vous faire plaisir, ça peut faire un peu sourire ce que je dis là, mais sachez qu'un électeur républicain sur deux considère que QAnon et ses théories complotistes ont une réalité, ont un fondement réel. Donc c'est ça aussi, la colère, on peut la construire de toutes pièces dans ces théories complètement farfelues, mais on peut aussi la saisir sur des choses réelles. L'idée par exemple d'être déclassé dans la mondialisation, l'idée que il y a tout un establishment qui ne vous parle pas. Et quand on regarde la carte électorale des États-Unis, c'est vrai que Donald Trump fait le plein là où il y a du vide, là où il y a peu de monde, là où il y a peu de villes, là où il y a finalement un espace à prendre, l'espace à prendre, un espace géographique et un espace idéologique à prendre. Donald Trump s'y est vraiment engouffré.
Décrivez-nous les catégories d'Américains qui, aujourd'hui, soutiennent fermement Donald Trump. Encore une fois, il faut rappeler, hein, il a rassemblé à peu près 68 millions d'électeurs, oui. 5 millions de plus qu'en 2016. Donc, son discours, il porte.
Il porte, en effet, c'est... Si vous voulez, il y a d'abord un... Il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a d'abord, je crois, une différence de genre, homme-femme. Le discours de Trump plaît davantage aux hommes. Et là, c'est une dimension peut-être du trumpisme que j'ai un peu oublié tout à l'heure, c'est la dimension viriliste, un peu machiste, qui est d'une manière de voir le monde de manière un peu phallique, comme peut-être ces buildings en seraient un symbole. En tout cas, il y a cette dimension-là qui est très forte, et il fait le plein chez les hommes. Chez les hommes blancs en particulier, là, ça rencontre une autre dimension du trumpisme, qui est la dimension raciale, qu'il ne faut jamais oublier. Je ne dis pas que Trump est raciste ou que ses militants sont racistes, mais il y a, chez eux, la crainte, voyons, on revient à la peur de tout à l'heure, ou la colère, la peur de voir leur pays leur échapper. Sachez que depuis 2016, et c'est pas n'importe quand, c'est l'année de l'élection de Donald Trump, plus d'un enfant né aux États-Unis sur deux n'est pas blanc. Donc il y a une espèce de peur comme ça, de ce qu'en France on appellerait le grand remplacement, et qui aux États-Unis est une idéologie qui est portée au pouvoir par quelqu'un comme Donald Trump. Ça, c'est les deux gros corps électoraux. Et puis après, quand on regarde dans le détail, on voit effectivement que les gens moins diplômés votent davantage pour Donald Trump. Ça, c'est très clair. Donc, si vous croisez les facteurs, si vous êtes un homme blanc et moins diplômé, c'est là où Donald Trump fait son meilleur score, ses meilleurs scores en 2016 comme cette année.
Thomas Negaroff, nous sommes ici en Europe effarés par son comportement. Le comportement de Donald Trump, sa vulgarité, son ignorance, oui. Ses mensonges, son culot. Oui. Annoncer sa victoire mardi dans la nuit, alors que le dépouillement est en cours. Mais il semblerait que ce style, ça plaît à beaucoup d'Américains qui disent, voilà, il est authentique, il dit ce qu'il pense.
Voilà, il dit ce qu'il pense, il n'y a pas le filtre de l'intellect, et ça c'est très fort aux États-Unis. Hein. Le bon sens dont on parle de plus en plus en France dans les campagnes électorales aux États-Unis, c'est véritablement un argument électoral. Et c'est même la naissance même des États-Unis, hein. Relisons Thomas Paine, the common sense, la révolution américaine, elle est née de l'idée, c'est du bon sens que de demander... que de réclamer et d'obtenir l'indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. Donc le bon sens, et le bon sens, il l'incarne complètement. Le bon sens, c'est quoi ? C'est réfléchir, non pas forcément réfléchir, mais agir en fonction de ses instincts. J'avais fait un petit texte qui est gratuit, donc c'est pas de la promo, un tract de Gallimard. Pendant le confinement, il y avait des tracts tous les jours, des petits textes qu'on peut trouver en ligne. J'avais appelé ça « La culture de l'inculture ». Et il y a effectivement chez Trump cette idée-là que la culture est un problème. Quand Barack Obama avait été élu, on lui reprochait le temps qu'il mettait avant de prendre des décisions, et même des présidents très cultivés du passé comme Bill Clinton, masquaient complètement, ou Theodore Roosevelt en 1900, masquaient complètement leur culture, leur haute culture vraiment académique, parce qu'ils sentaient bien que les Américains avaient aussi un besoin de quelqu'un qui réfléchissait peu, qui agissait avec ses instincts, les instincts ne mentant pas, ou en tout cas étant selon eux plus proche de la vérité de ce que l'on doit faire, que lorsque c'est, disons, perverti par des livres, par de la lecture. Alors, n'exagérons pas, ne caricaturons pas les choses, mais c'est vrai que quand Donald Trump vous dit « la science, j'y crois pas, je ne crois qu'en mes instincts au sujet, par exemple, du coronavirus », on est exactement dans la définition de la culture, de l'inculture. Et c'est pas du tout comme en France, où au contraire, un président de la République doit montrer qu'il en sait beaucoup, parce que sinon il est déqualifié. Aux États-Unis, c'est presque l'inverse.
Thomas Negaroff, si Donald Trump perd, est-ce qu'il va continuer à jouer un rôle dans la vie politique américaine dans les prochaines années?
Alors ça, c'est le gros point d'interrogation. Il n'est pas impossible, effectivement, qu'il développe ce qu'il voulait faire en 2016. Vous savez qu'en 2016, c'était une surprise pour lui d'être élu. Beaucoup pensent qu'il voulait surtout faire une espèce de campagne de publicité immense et quasiment gratuite, parce que financée par des levées de fonds, qui lui aurait permis, non pas d'être connu parce qu'il l'est, mais de développer son propre média. Et ce média, il existe sur Facebook aujourd'hui. Les critiques adressées aujourd'hui à Fox News, par exemple, accusées d'avoir donné l'Arizona trop vite à Joe Biden. Et ses militants sont vent debout devant Fox News. Ils ont même essayé de prendre à partie une équipe de Fox News. Tout cela, à mon avis, participe aussi d'une stratégie qui est de proposer une alternative à ces médias-là. Alors, il y a OAN, qui est un média très conservateur, One American Nation. Mais Donald Trump, c'est pas son média à lui, et il y aurait peut-être cette possibilité-là. Ce qui lui permettrait d'agir énormément sur les idées, sur les opinions, en continuant sans être forcément au pouvoir. Certains disent aussi qu'il aurait en tête 2024, parce que vous savez qu'aux États-Unis, on peut avoir un trou entre deux présidentielles, Grover Cleveland au 19e siècle, c'était ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas si Donald Trump aura envie en 2024 de se représenter, si le cas échéant, il était battu cette année, mais on parle de cela aujourd'hui. En tout cas, il sera certainement pas un Jimmy Carter sortant de la Maison-Blanche et faisant un tour du monde et obtenant un prix Nobel de la paix pour son action pour la paix dans le monde. Je pense qu'il aime trop la lumière, Donald Trump, il aime trop les sunlight pour disparaître immédiatement ou en tout cas disparaître provisoirement de la vie politique et de la vie médiatique surtout américaine.
La vie politique américaine, c'est souvent, c'est très souvent l'art du compromis. Avec Trump, c'est fini, Thomas Negaroff. On a l'impression qu'on a aujourd'hui deux Amériques qui s'affrontent, qui ne se comprennent pas, des Américains qui se détestent. C'est cela ?
Oui, on a effectivement deux Amériques qui sont, et on voit dans les chiffres, c'est quand même extraordinairement serré, hein, on est quasiment à 50-50 partout en réalité. Et ça donne vraiment l'image d'avoir deux Amériques qui ne sont pas, à mon avis, selon moi, face à face, mais qui sont de plus en plus, et c'est peut-être plus grave pour l'Amérique, dos à dos. C'est-à-dire qu'ils regardent des réalités différentes. Quand on est dos à dos avec quelqu'un, on ne voit pas la même chose. Et c'est un peu ça aujourd'hui l'Amérique, deux Amériques qui ne voient plus la même chose, qui ne respectent plus les mêmes systèmes de valeurs, qui ne se parlent plus du tout. Et qui, regardez le symbole, est quand même assez intéressant, qui ne vote même plus en même temps. Puisque on voit très bien que les démocrates ont voté avant le 3 novembre, en anticipé, alors que les républicains ont voté le 3 novembre. On a vraiment là, je crois, un beau symbole de deux Amériques qui ne se parlent plus, qui vivent dans deux bulles différentes. Et bon courage pour le prochain président, si c'est le 46e, donc si c'est Joe Biden, de vouloir, comme il l'a dit dans son discours hier, unifier l'Amérique, cicatriser, etc. Bon courage, parce qu'il y a des gens qui vont considérer, en écoutant Donald Trump, qu'il a été élu grâce à la fraude. Donc si vous ajoutez des mondes parallèles, des médias différents, dos à dos, et en plus vous accusez le président d'avoir été élu par la fraude, et ce qui est donc le symbole du fait que vous êtes le président de l'establishment qui a voulu dégager absolument le héros Donald Trump, vous imaginez que dans ces conditions, il va être très 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 difficile de réconcilier ces deux Amériques, s'il y en a deux, ou même peut-être même davantage, en tout cas, ces mondes aujourd'hui qui ne se parlent même plus.
Mais ces mondes, ils existent, c'est-à-dire qu'il y a des privilégiés, il y a des gens qui s'en sortent bien, et puis il y a les oubliés, ceux qui subissent la mondialisation. Et c'est là-dessus que Trump a su prospérer.
Ça, c'est beaucoup ce qu'on dit, mais je pense que c'est quand même très excessif, parce que regardez qui vote pour Joe Biden, les minorités, je ne crois pas que ce soit vraiment des insiders qui profitent de la mondialisation. Donc c'est plus compliqué que ça, à mon avis, ça recoupe des questions aussi raciales, pas uniquement des questions sociales ou des questions économiques. Mais évidemment, le Parti démocrate a intérêt, ne serait-ce que d'un point de vue électoraliste, à reparler à ces gens, à ces gens du Midwest par exemple, à ces fermiers blancs, à ces pauvres blancs, notamment des Appalaches, de ces régions-là industrielles. Il faut leur reparler, retrouver un discours qui n'est plus uniquement culturel comme il l'a longtemps été avec le Parti démocrate, mais parler aussi économique et social. C'est des enjeux d'ailleurs qui traversent toutes les gauches libérales, sociales libérales du monde entier. Ça traverse évidemment aussi la gauche américaine. Et il y a une pression vraiment d'une base à gauche, d'une base du Parti démocrate qui est plus à gauche que Joe Biden, mais qui est largement sur les questions identitaires, un peu moins sur les questions sociales. Donc il va falloir marcher sur les deux jambes pour les démocrates pour effectivement tenter de réconcilier ces deux Amériques, parce que on réconcilie pas les deux Amériques en faisant uniquement avec des symboles d'empathie, etc., ou des grands discours, mais clairement avec des preuves. Preuves, il y a l'amour, il y a les preuves d'amour, et là, pour le coup, il va falloir faire des choses pour ce monde-là qui est en train, effectivement, de s'éloigner du Parti démocrate et d'une partie aussi du fonctionnement de l'Amérique.
Thomas Negaroff, dernier point, Joe Biden va garder une partie du trumpisme, l'isolationnisme américain va continuer avec Joe Biden.
Oui. C'est pour ça que c'est bien de finir par ça, parce que le trumpisme qu'on a défini au début, il va pas uniquement survivre grâce aux électeurs de Trump. Il a aussi contaminé, si je puis dire, la vie politique américaine. Je pense que un nouveau président aura du mal à ne pas tenir cette espèce de délire médiatique permanent autour de sa personne. On va vite s'ennuyer. Ça va être Jimmy Carter élu en 76. On s'ennuie au bout d'un moment et il est balayé en 1980. Par Ronald Reagan, qui est un acteur qui apporte une dynamique extraordinaire. Là, à mon avis, on est un peu dans le même genre de choses. On a besoin, certes, les Américains ont besoin d'une présidence plus normale, mais au bout d'un moment, ils se sont habitués à ce nouveau normal qu'était Donald Trump. Et puis sur le fond, vous avez raison, le nationalisme, les frontières, le rapport avec la Chine, tout cela sont des choses qui ont été largement posées par Donald Trump et qui sont maintenant acquises dans l'ensemble du champ politique. Donc le trumpisme, y compris dans sa dimension idéologique, ne va pas disparaître, même si Donald Trump perd aujourd'hui la Maison-Blanche.
Thomas Negaroff, en direct de Washington, merci beaucoup. Donald Trump accuse le camp démocrate de fraude électorale. Il ne semble pas prêt à lâcher la Maison-Blanche. Si Joe Biden devait l'emporter, le président en exercice promet de saisir la Cour suprême fédérale. Wanda Mastor est au téléphone avec nous. Wanda Mastor, vous êtes professeure de droit public à l'Université de Toulouse, Capitole, spécialiste de droit constitutionnel américain. Alors ce soir, Donald Trump annonce qu'il va contester tous les récents États revendiqués, je cite le mot, revendiqués par Joe Biden. Ça signifie quoi exactement, concrètement ?
Alors concrètement, déjà, il ne le peut pas. C'est-à-dire que quand il dit « je », il veut dire « on », c'est-à-dire il parle des comités républicains qui, au sein des États fédérés, pourraient éventuellement faire des recours. Ça, c'est la première précision importante. Le président de la République ne peut pas saisir directement la Cour suprême. Il faut savoir qu'aux États-Unis, déjà, les États-Unis sont un État fédéral. Il faut toujours le rappeler. Je pense que là, vos auditeurs l'ont bien compris en assistant au déroulé de ces élections présidentielles. Il y a déjà une multitude de recours qui, effectivement, ont été intentés dans plusieurs États, et ce, depuis quelques mois, voire quelques années. D'après certaines universités, notamment l'université de Stanford, il y aurait plus de 300 recours déjà intentés. Et je vous donne qu'un exemple pour vous montrer comment, en partant d'un État, le recours peut aller jusqu'à la Cour suprême. C'est celui, précisément, de l'Arizona, qui a été très discuté, et qui l'est encore, d'ailleurs, selon certains médias. Il y a une bataille judiciaire qui fait rage depuis déjà 4 ans. Donc vous voyez, ça date pas d'hier, puisque la loi, si vous voulez, de l'État, majorité républicaine, on va dire, avait restreint un petit peu le droit de vote par correspondance. Je n'entre pas dans les détails, mais le comité démocrate a fait appel. La cour du 9e circuit a donné raison à ce comité démocrate. Le gouverneur, notamment républicain, a fait un recours. Et la Cour suprême, la semaine dernière, a accepté de se saisir de ce recours. Ça, c'est juste pour vous donner une idée concrète de comment, à un moment donné, des tas de petits recours faits, intentés ici ou là dans les États, à un moment donné, peuvent arriver devant la Cour suprême des États-Unis. Donc, pour résumer, non, Donald Trump ne peut pas lui saisir la Cour suprême, mais en revanche, il peut pousser son parti, évidemment, à en intenter dans plusieurs États fédérés.
Cette Cour suprême fédérale, est-ce qu'elle est aux ordres de Donald Trump, Wanda Mastor ?
Alors ça, il faut absolument pas dire ça. Je sais que c'est tentant de le dire, puisque la Cour suprême était déjà à majorité conservatrice avant que Amy Barrett n'ait été confirmée la semaine dernière par le Sénat. C'est vrai, maintenant la majorité est renforcée. 6 conservateurs, on va dire, face à 3 libéraux. Et parmi les 6 conservateurs, il y a 3 juges nommés par Trump. Mais ceux qui connaissent bien l'histoire de la Cour suprême savent très bien que ça serait vraiment faire des mauvaises prédictions. Si vous voulez, pour reprendre l'expression très française de Robert Badinter, les membres de la Cour suprême ont eux aussi une sorte de devoir d'ingratitude envers les autorités qui l'ont nommé. Je vous donne que 2 exemples qui sont assez savoureux pour rendre hommage à des grands présidents. Quand on demandait à Dwight Eisenhower s'il avait commis des erreurs pendant son mandat, il répondait « j'en ai commis 2 et les 2 siègent à la Cour suprême ». Et Truman avait dit la chose suivante aussi: « on ne peut jamais s'assurer à l'avance d'une Cour favorable. J'ai essayé, ça ne marche pas. Une fois que vous nommez des juges à la Cour suprême, ils cessent d'être votre ami. » Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que cette Cour suprême-là ne sera pas du tout encline à donner un résultat favorable à Trump si le scénario Bush versus Gore de 2000 devait malheureusement se reproduire. Mais on ne peut pas non plus dire, bon, puisqu'il en a nommé 3, il a la Cour suprême à ses ordres. Ça, vraiment, ça serait une mauvaise prédiction, de mon point de vue en tout cas.
Merci d'avoir été en ligne avec nous, Wanda Mastor, professeure en droit constitutionnel, spécialiste du droit américain. Dans cette élection, les médias américains doivent parfois jouer les acrobates, raconter l'actualité, et puis surveiller de très près les déclarations d'un candidat un peu trop affirmatif, Donald Trump, notamment dans la nuit de mardi à mercredi, 2h du matin à Washington, à la Maison-Blanche. Les télévisions sont en direct. Donald Trump affirme avoir remporté cette élection. Les chaînes doivent interrompre la diffusion.
We will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have won it.
Nous sommes réticents à intervenir, mais le devoir nous oblige à faire remarquer que quand il dit « nous avons gagné cette élection, on a déjà gagné », ce n'est absolument pas basé sur les faits.
Nous devons interrompre ici, car il y a plusieurs déclarations qui ne sont franchement pas vraies. Certains États, en réalité, n'ont pas fini de compter tous les votes.
Ce que le président Trump vient de dire est antidémocratique, faux est prématuré.
C'est une situation extrêmement inflammable et le président vient juste d'y jeter une allumette.
En ligne avec nous pour évoquer les médias américains, Alexis Pichard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en civilisation américaine à l'Université de Paris-Nanterre et auteur de « Trump et les médias, l'illusion d'une guerre ». C'est paru aux éditions VA. Cette séquence dans la nuit de mardi à mercredi au cours de laquelle les chaînes ont cessé de diffuser la déclaration de Donald Trump, c'est sans précédent.
Alors c'est sans précédent pour ce genre d'allocution effectivement, même si on a vu quand même des choses qui se rapprochaient durant les dernières années de la mandature Trump, notamment à partir de 2019, où les chaînes, notamment CNN qui diffusait les meetings de campagne de Trump, ont progressivement censuré certaines parties, notamment quand le président s'en prenait aux médias. Vous savez que dès lors qu'il est en campagne, dès qu'il est en meeting, il s'adresse toujours aux médias, il les pointe du doigt en disant voilà CNN craint, etc. Il le fait répéter assez fidèle. Donc toutes ces parties ont progressivement été censurées parce qu'elles n'apportent aucune information et que CNN en avait un peu marre de se voir critiquer à l'antenne. Et je rajoute en 2020, donc durant la crise du coronavirus, Trump a tenu des meetings, des briefings tous les jours à la Maison Blanche. Des briefings dans lesquels il a relayé de la propagande à non plus finir. Et là aussi, MSNBC et CNN ont censuré des partis parce qu'ils jugeaient que c'était de la désinformation et que leur téléspectateurs ne devaient pas être en proie à ce genre de manipulation.
Alexis Pichard, sur les réseaux sociaux en ce moment, on voit depuis 24 heures un déchaînement des pro-Trump, convaincus, je les cite, d'un vol électoral, un complot. Quelles peuvent être, selon vous, les conséquences de cette campagne sur Facebook, Twitter et tous ces réseaux sociaux?
Jusqu'à récemment, Twitter et Facebook avaient été relativement épargnés par les foudres de Donald Trump parce qu'ils étaient restés assez neutres sur sa parole politique. Or, depuis le mois de juin, de mai de juin, Twitter d'abord et ensuite Facebook se sont mis à censurer les publications de Trump, notamment celles qui colportent des fake news ou en tout cas des mensonges vis-à-vis de l'élection et du résultat de l'élection. Donc le problème, c'est que ce genre de colère va produire d'autant plus de haine envers une certaine partie de la presse progressiste, aussi les médias progressistes, la Silicon Valley, et au long terme, une crise vraiment durable de la démocratie et de la place du rôle des médias dans cette démocratie.
Alexis Pichard, merci d'avoir répondu à nos questions. Docteur en civilisation américaine, spécialiste des médias, vous avez publié « Trump et les médias, l'illusion d'une guerre » aux éditions VA. Merci.
Le 18-20, Pierre Veil, sur France Inter.
Et à suivre dans Un jour dans le monde, le bruit du monde. Aux États-Unis, dans le Wisconsin, Rosalie Lafarge à Milwaukee, où le camp Trump demande le recomptage des suffrages après la victoire de Joe Biden. Amélie Perrier, sous les radars de l'actualité, toujours aux États-Unis. Amélie, oui. Des candidats insolite.
Oui, de drôles de candidats et de drôles d'élus passés sous les radars de ces élections. Je vous parlerai notamment de Kanye West, mais également de femmes transgenres, d'un ex-spationaute et puis encore des Amérindiennes qui font leur entrée au Congrès.
À tout à l'heure, Amélie, 18h55, le monde à l'envers, Jean-Marc Four à Washington. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous.
Jean-Marc, le trumpisme dans le monde, ça marche ?
Oui, même si Biden l'emporte, hein, Trump a déjà, à bien des égards, trumpisé l'ensemble de la planète sur la notion de vérité, sur les divisions sociales, sur le grand repli américain.
On se retrouve vers 18h55, Jean-Marc. Page musicale américaine, 1967, les débuts d'un groupe de la côte ouest, Los Angeles. Et la voix puissante, sensuelle, de son chanteur, Jim Morrison, les Doors, Soul Kitchen.
Says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with ice. Street lights shine.
go. Still one place to go. Let me sleep all night in your sound kitchen. Where the man with your gemstone turned me out in a wonder, baby. Stolen in the neon. Growing our fingers, we quick minarets. Speaking secret alphabet. I light another cigarette. Let
aux États-Unis, direction Milwaukee dans le Wisconsin. Joe Biden l'a emporté hier dans cet État avec ses 10 grands électeurs. Ça pèse lourd. Et Donald Trump demande un recomptage des bulletins. Ses partisans parlent d'irrégularités nombreuses. L'ambiance sur place à Milwaukee. Reportage Rosalie Lafarge.
20 000 voix, l'écart est très faible dans le Wisconsin entre Joe Biden et Donald Trump, aussi faible qu'il y a 4 ans finalement, mais au profit des démocrates cette fois. Et ça, ça soulage Greg Lewis, un militant afro-américain de Milwaukee. On a livré une belle bataille, on n'a plus qu'à attendre, mais les gens se sont mobilisés et j'en suis fier. Maintenant, on doit se rassembler. Ça me déchire le cœur de voir qu'on les laisse nous diviser. La division, voilà ce que reprochent beaucoup les démocrates du Wisconsin à l'actuel président. Michael est écrivain, il désespère de pouvoir enfin tourner la page Trump. Il a fait tellement de mal à ce pays, les démocrates vont avoir du boulot pour défaire tout ce qu'il a fait. Ça va prendre du temps, mais on n'y est pas, même si je pars du principe que Biden va gagner. Trump ne partira pas avant la mi-janvier, or il est très dangereux. Les supporters de Joe Biden en veulent pour preuve cette demande du camp trumpiste de recompter les voix ici dans le Wisconsin. Dans les rues de Milwaukee, des manifestants dénoncent des manœuvres d'intimidation. Et ils promettent de se battre jusqu'au bout du processus électoral. Mais côté républicain, l'analyse est évidemment bien différente. Ils sont assez peu nombreux, les partisans du président, ici à Milwaukee, mais Daniela en fait partie. Et le fait de voir Biden s'imposer ici, alors que Trump menait la course au départ, ça l'interroge. Il gagnait à l'origine, donc je suis assez surprise de ce retournement. Alors allons-y pour recompter. Il y a toujours un risque de fraude. Je ne sais pas à quel point ça peut être intentionnel et malveillant, mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un quelque part qui a tenté de manipuler au moins un peu le vote. Mais même chez les Trumpistes, on doute de l'intérêt de ce recompte. Louis n'est pas sûr que ça change grand-chose à la fin. Peut-être, mais j'en doute, vu ce qu'on entend, il a l'air vraiment derrière. Et ce qu'on redoute à Milwaukee, c'est l'après. On attend avec impatience les résultats, comme partout ailleurs, mais à l'image de Molly, étudiante à l'université, on craint ce qui pourrait se passer ensuite. J'ai peur du contre-coup. beaucoup. On ne sait pas comment les gens vont réagir, mais il peut y avoir des appels à prendre les armes et ça, ça m'inquiète. Le Wisconsin a connu des émeutes à la fin de l'été après l'affaire Jacob Blake, cet afro-américain qui s'est fait tirer 7 balles dans le dos par un policier à Kenosha. L'éventuel retour de la violence plane comme une menace sur des villes qui, pour certaines, ont conservé les barricades sur les fenêtres des commerces au cas où.
Voilà, reportage de Rosalie Lafarge à Milwaukee dans le Wisconsin où Donald Trump demande un nouveau compte des bulletins. Il a perdu cet État qu'il avait remporté en 2016. Joe Biden l'a emporté et donc l'ambiance est plutôt tendue. Reportage à réécouter sur franceinter.fr, un jour dans le monde. Les radars de l'actualité avec Amélie Perrier. Amélie, on parle évidemment beaucoup du match Trump-Biden, mais lors de ces élections américaines, présidentielles et locales, beaucoup d'autres personnalités, d'autres candidats sont passés sous les radars.
À commencer par Kanye West, le rappeur dont vous entendez ici le titre « Follow me, suivez-moi ». Une supplique qui n'a pas été entendue par les électeurs. Kanye West, candidat à la présidentielle, a fait un énorme bide.
Yes. Congratulations. Thank you very
yes.
much.
Voilà une vidéo postée par Kenny sur son compte Twitter. Le jour du vote, il glisse un bulletin à son nom dans la machine électorale. Il dit que c'est la première fois qu'il vote à la présidentielle et pour quelqu'un à qui il fait vraiment confiance, c'est-à-dire lui-même. Et même s'il a plus de 30 millions d'abonnés sur son compte Twitter, très peu de fans lui ont emboîté le pas. La star a récolté, selon un dernier décompte, à peine 60 000 voix. Au mieux, selon les médias américains, Kanye fait un score de 0,4% dans des états très ruraux comme l'Idaho, l'Oklahoma ou l'Utah. Mais la défaite ne contrarie pas ses projets. Kanye a déjà posté un nouveau message, une photo de lui en ombre chinoise sur une carte des États-Unis. Et cette seule légende, Kanye 2024. Et oui, il retentera sa chance dans 4 ans.
Lui n'aura pas à attendre. Mark Kelly, démocrate, remporte un siège au Sénat.
Mark Kelly, c'est un destin américain hors norme. Pour comprendre, il faut regarder son clip de campagne intitulé « Commitment ». L'engagement. C'est son épouse qui parle, Gabby Giffords, victime d'une tentative d'assassinat en 2011. Elle était alors élue à la Chambre des représentants. Elle frôle la mort après avoir reçu une balle en pleine tête. Le tireur de 22 ans abat 6 personnes et finira sa vie en prison.
Marriage is a commitment.
Le mariage est un engagement, dit Gabby donc dans ce clip, de rester avec son partenaire dans la maladie comme dans la santé. Je me sens tellement chanceuse d'avoir Marc à mes côtés chaque jour. Il m'a aidée dans les moments les plus sombres. L'engagement, c'est aussi la carrière de militaire de Mark Kelly. Il a servi dans la marine et à la NASA. C'est un astronaute. Il est allé jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Et son dernier engagement est politique, évidemment. Conquérir l'Arizona, état conservateur traditionnellement. Face à lui, il avait une autre ancienne combattante, Martha McSally, une protégée de Donald Trump. L'astronaute a mené une campagne où il a préféré mettre en sourdine son affiliation aux démocrates et son soutien à Joe Biden. Il défendait une candidature transpartisane pour tout l'Arizona. Eh bien, c'est une mission accomplie.
Une élection américaine, Amélie, marquée par de nombreuses femmes candidates aussi.
Comme par exemple Marjorie Taylor Greene. Elle est emblématique de l'Amérique de 2020 parce qu'elle est proche du mouvement QAnon. Elle vient d'être élue à la Chambre des représentants, élue en Géorgie.
I'm running to stop gun control. Open borders.
Et voilà son clip de campagne, on la voit armée d'un fusil d'assaut assez costaud, hein, et elle dégomme symboliquement, mais en tirant hein, vraiment le contrôle des armes, l'ouverture des frontières, le New Deal écolo et le socialisme. Et Marjorie Greene se revendique aussi donc du QAnon, un mouvement d'extrême droite qui défend l'idée que Donald Trump mène une guerre secrète contre une secte mondiale composée de pédophiles satanistes. Trump l'adore et pourra donc compter désormais sur son soutien à la Chambre des représentants.
Et dans un tout autre genre, Sarah McBride, elle va faire ses premiers pas au Sénat.
Élue dans l'État du Delaware, elle devient la toute première femme transgenre à accéder à la Haute Assemblée. On l'a vu apparaître il y a 4 ans lors de la Convention nationale démocrate à Philadelphie.
Thank you so much, Congressman. My name is Sarah McBride and I am a proud transgender American.
Voilà, vous l'entendez en version originale. Mon nom est Salra McBride et je suis une Américaine transgenre et fière. Vous connaissez le sens très militant du mot proud, fière de sa sexualité, comme dans la Gay Pride. Sarah est une militante de longue date des droits pour les LGBTQ et sa victoire aujourd'hui est éclatante. 86% des voix face à son adversaire républicain. Première femme transgenre au Sénat. Il y aura aussi une toute première femme transgenre à faire son entrée à la Chambre des représentants. Ce sera Taylor Small, élue dans le Vermont. Notez enfin ces autres avancées pour les femmes en politique. Au Nouveau-Mexique, dans le Sud-Ouest, les électeurs ont choisi d'envoyer à la Chambre seulement des femmes, qui plus est issues des minorités, une latino et deux amérindiennes. La démocrate Deb Haaland et la républicaine Yvette Herrell seront les toutes premières amérindiennes à siéger au Congrès.
Amélie Perrier, sous les radars de l'actualité, il n'y a pas que le duel Trump Biden en ce moment aux États-Unis. Merci Amélie, une grande voix américaine. Grégory Porter maintenant. Everything you touch is gold.
Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. But oh girl, I think that you can stop mining. I don't have to dig to see. My treasure's standing right in front of me. Everyone that I know is asking me, what is going on in your life? Oh, and it feels like heaven. Touching your hand, well, it's just time, yeah, and I will give me some time, and I will.
Grégory Porter, Everything You Touch Is Gold.
Pierre Veille, le 18-20.
Et c'est le monde d'après avec Jean-Marc Four en direct à Washington. Jean-Marc, le résultat de la présidentielle américaine reste encore incertain. Les décomptes se poursuivent dans plusieurs états clés. Une victoire de Joe Biden semble plus probable qu'hier. Mais même dans ce cas de figure, Jean-Marc, vous pensez que Trump a d'ores et déjà changé le monde bien au-delà des États-Unis et c'est votre monde d'après?
Oui, pour le résumer en une formule simple, comme on dit dans Harry Potter, forfait accompli. Il faudrait inventer un terme, un verbe, trumpiser. En 4 ans, Trump a trumpisé le monde à de nombreux égards. D'abord, et c'est sans doute le plus important, la frontière entre le vrai et le faux s'est effacée. On en a l'illustration absolue avec cette histoire de proclamation des résultats. Pour Trump, le décompte des votes doit s'arrêter uniquement s'il est en tête, c'est ça le vrai. Si le décompte final lui est défavorable, c'est forcément un mensonge. Et un grand nombre de ses partisans le croient. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de consensus sur l'établissement des faits et de la vérité. Que les bureaux de vote opèrent un décompte méticuleux et proclament un résultat factuel n'a pas de valeur si le résultat ne vous vous convient pas. Que les grands médias américains prennent acte d'un résultat factuel et le vérifient ne compte pas non plus. L'électorat Trump ne leur fait plus confiance. Une grande partie de cet électorat ne croit plus que dans la parole du chef sur les réseaux sociaux et dans les théories du complot propagées par plusieurs mouvements, notamment QAnon, dont parlait Amélie Parier tout à l'heure. Il n'y a plus de vérité admise. On retrouve cette évolution dans une partie des électorats européens qui ne font plus confiance ni dans les gouvernants ni dans les médias.
Et c'est comme ça, évidemment, qu'on se retrouve avec des pays polarisés, très divisés.
Oui, oui. Là aussi, cette évolution du monde dépasse de beaucoup les États-Unis. La stratégie de Trump, c'est de plaire uniquement à son camp et de dresser les gens les uns contre les autres. Ça se traduit par une extrême agressivité via les réseaux sociaux et on peut craindre qu'à un moment donné, ça ne se transforme en violence dans les rues. Le résultat, c'est la haine entre les gens, irréconciliable, jusque parfois à l'intérieur d'une même famille. Celui dont la vie diverge du vôtre est vu comme un ennemi, un menteur, ça s'appelle l'intolérance. Et c'est à l'œuvre par mimétisme, par effet en chaîne, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets aussi. Dans la stratégie d'autres leaders populistes, regardons la Pologne, la Hongrie, l'extrême droite italienne ou plus un peu plus loin, l'Inde, les Philippines. Ce refus de tout dialogue, on le retrouve aussi dans plusieurs contestations sociales, comme les Gilets jaunes en France. Le sentiment d'injustice y prévaut et alimente tout refus du compromis. C'est extrêmement destructeur. Il y a aussi un lien avec la judiciarisation en cours du processus électoral. La multiplication des contentieux, on l'a vu sur le dépouillement des votes initié par le camp Trump. Faut pas s'y tromper, le but est de conserver le pouvoir. Évidemment, c'est un intérêt personnel. Mais dans le système judiciaire américain, ça conduit mécaniquement à regarder l'autre comme un accusé, présumé coupable, un ennemi qui a truqué le vote. Il faut le condamner, là encore, la division. Sur cet aspect, la judiciarisation, l'Europe reste pour l'instant un peu plus préservée parce que la justice est peut-être plus indépendante, parce qu'aussi nos systèmes de vote sont moins complexes. Mais rien ne dit qu'à l'avenir, nous soyons à l'abri de ces contentieux électoraux à l'américaine qui alimentent la radicalisation. Là encore, Trumpisation du monde.
Jean-Marc, vous diriez que ça s'applique aussi aux relations internationales ?
Ouais, évidemment que ça s'applique aux relations internationales que nous laisse finalement ce mandat de Trump, la fin du multilatéralisme. Il était déjà mal en point avant, c'est vrai, mais là, il est presque enterré. Donald Trump a multiplié les décisions unilatérales sur le climat, le nucléaire iranien. Il a donc légitimé tous ceux qui ont la tentation d'agir ainsi, et ça manque pas sur la planète, par exemple la Russie, tiens. Il n'est absolument pas dit qu'avec une éventuelle présidence Biden, les États-Unis renoncent à ce retrait unilatéral. Sur la Chine, même sur l'Europe, le durcissement des États-Unis est enclenché, la marche arrière n'est pas assurée. Là encore, Trumpisation du monde. Enfin, dernier constat, le sentiment d'un déclin des États-Unis. Plusieurs leaders étrangers, par exemple l'Iranien Khamenei, ironise aujourd'hui via Twitter sur cette démocratie américaine qui semble fonctionner si mal. L'image des États-Unis est sérieusement endommagée, le retrait américain des affaires internationales est saisissant, la Trumpisation du monde, c'est cela aussi. Nous sommes entrés dans un nouveau monde où les États-Unis ne sont plus au poste de pilotage.
Le monde d'après, Jean-Marc Four, en direct de Washington. Merci Jean-Marc.